Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La société italienne est assez matriarcale. Enfin, les femmes ont quand même pas mal le lead, même dans la famille, etc. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, en tout cas, moi, à l'époque, hein, il y avait quand même, on part de la maison, on se marie. Enfin, moi, j'ai été élevée un peu comme ça. Il y a une forme de pudeur aussi dans l'éducation que j'ai pu recevoir. Et puis, je crois, une forme de peur.
Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
Bonjour, je m'appelle Angela, j'ai 49 ans, bientôt 50. J'étais journaliste pendant 25 ans, plus de 25 ans, et aujourd'hui je suis auteure jeunesse. Et actuellement, j'adapte un de mes textes au théâtre.
Alors Angela, on va commencer par parler de ton enfance. Et première question toute simple, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi ?
Je suis née à Leblanc-Ménil, une commune du 93, mais j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, donc pas très loin, pendant 27 ans. J'ai habité là-bas pendant 27 ans.
Et dans quel milieu social, on va dire, t'as grandi ? À quoi ressemblait ta famille ?
Alors, j'ai grandi dans une famille d'immigrés italiens, donc j'ai vraiment grandi dans la double culture française-italienne. C'est quelque chose qui est très important pour moi, et avec une maman au foyer et un papa artisan dans le cuir, on va dire. Il faisait des chaussures sur mesure.
Et justement, cette famille, voilà, comme tu as dit, d'origine italienne, tu as été éduquée du coup, avec une éducation très traditionnelle à l'italienne, c'est ce que tu m'avais dit. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi consistait ton éducation en tant que jeune fille ?
Oui, c'est vrai, j'ai donc eu une éducation plutôt traditionnelle parce que, étant fille d'Italien, j'ai vraiment été éduquée à la façon de, c'est-à-dire avec un peu un décalage par rapport à ce que vivaient mes camarades françaises. Il faut savoir que quand on a une double culture, on n'est jamais vraiment là où on doit être. C'est-à-dire que dans mon cas, en France, j'étais italienne et en Italie, j'étais française. Donc il y avait un décalage, ne serait-ce que parce que mes parents sont originaires d'un petit village. Donc ça change aussi pas mal les choses, un village du centre de l'Italie. Et c'est vrai que c'est pas pareil quand on grandit dans une grande ville et dans un village, ça c'est valable un peu partout. Et en plus, c'était un village du centre-sud de l'Italie. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, et ça sous-entend un certain nombre de codes, voilà, qui n'étaient pas du tout les mêmes qu'en France. Donc j'ai vécu, je dirais, une enfance et une adolescence assez protégées, un peu sous une bulle, c'est ce que je dis souvent, avec finalement assez peu de sorties, assez peu de connexion avec l'extérieur, par souci de protection, plus que par... C'était pas religieux, c'était pas peut-être un peu moral quand même, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, moins de sorties que mes copines, moins de liberté et une enfance plutôt casanière en fait. Et la liberté, je l'avais quand j'allais là-bas en vacances en Italie, parce que nous arrivions dans un village où globalement tout le monde se connaissait, enfin je dis tout le monde, en tout cas 80% des gens se connaissaient, où il y avait beaucoup de gens, bon, bah, tous les gens qui étaient partis, hein, les émigrés qui étaient partis en France et qui revenaient, c'est un grand classique, hein, au pays l'été. Et donc, quand j'arrivais là-bas, c'était vraiment les vannes qui s'ouvraient, c'est-à-dire que je faisais tout ce que je voulais. Je sortais, j'étais tout le temps dehors, parce que le village était petit, tout le monde se connaissait, comme je le disais, donc mes parents se sentaient en sécurité. Donc, c'était vraiment deux mondes, deux ambiances, une vie plutôt citadine, alors pavillonnaire, mais citadine en France, mais plutôt... casanière, et une vie très tournée vers l'extérieur en Italie.
Et est-ce que ta famille t'a déjà donné des indications de pourquoi est-ce qu'en tant que fille, t'étais un peu protégée, il y avait cette surprotection? Est-ce que t'as réussi à comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissaient comme ça?
Bah, je pense que c'est un peu culturel. En Italie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est encore un peu le cas dans certaines régions, mais disons qu'on a une vision un peu plus... Alors c'est très paradoxal parce que la société italienne est assez matriarcale. Enfin, les femmes ont quand même pas mal le lead, même dans la famille, etc. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin en tout cas moi à l'époque, hein, il y avait quand même, on part de la maison, on se marie. Enfin moi j'ai été élevée un peu comme ça. Peut-être que d'autres diront autre chose, mais il n'y a pas eu d'explication. C'était culturel, c'était comme ça. On ne sortait pas avec les garçons, même si ça se faisait, en tout cas, voilà, ce n'était pas quelque chose dont on parlait. Bien sûr, on ne parlait jamais de sexualité. Il y a une forme de pudeur aussi dans l'éducation que j'ai pu recevoir. Et puis, je crois, une forme de peur. Voilà, beaucoup de peur sur beaucoup de sujets. Et c'est quelque chose qui m'a accompagnée après, même dans ma vie d'adulte. J'essaye de me débarrasser, moi, aujourd'hui, de certaines peurs. J'en ai moins, évidemment, qu'en avait ma mère, mais je pense que c'est quelque chose qui se transmettait. Il y a eu un peu une peur. Une peur, qu'il nous arrive quelque chose, et puis qu'on rencontre de mauvaises personnes, pas trop envie qu'on s'éloigne, qu'on voyage, plutôt quelque chose de collé serré.
Donc tu disais que tu étais assez protégée, surprotégée par rapport notamment aux autres jeunes filles. Est-ce que tu les regardais un peu avec envie parfois ?
Oui, je regardais les autres jeunes filles avec envie. En tout cas, celles en France. Là, si on revient en France, moi, fallait que je rentre, hein, après le collège. Fallait pas trop traîner. J'allais pas en soirée. Habitant en banlieue, puisque j'étais quand même pas tout près, hein, de Paris. Fallait prendre le RER, etc. C'était plus compliqué aussi. Hein. Il y a aussi ce paramètre pour sortir et. Oui, voilà, je me disais, quelle chance elles ont de pouvoir faire à peu près tout ce qu'elles veulent. Enfin, moi, de mon point de vue, j'avais l'impression qu'elles faisaient tout ce qu'elles voulaient. Bon, elles faisaient plus que moi, mais est-ce qu'elles faisaient forcément tout ce qu'elles voulaient? Bon, peut-être que je me racontais une histoire. Mais en tout cas, oui, je les enviais un peu. Et c'est drôle parce que longtemps après, j'ai pu retrouver ou suivre le parcours de certaines d'entre elles. Et finalement, je me dis, sur plein de points, je trouvais que finalement l'éducation que j'avais reçue n'était pas si mauvaise. Sur le moment, j'étais un peu frustrée. Mais après coup, j'ai trouvé que la frustration m'avait apporté paradoxalement pas mal de choses.
Peut-être qu'on y reviendra par la suite. Lorsque tu avais à peu près 8-10 ans, tu t'es découverte une passion, l'écriture. Et ça t'a aussi donné des envies de métier quand tu étais petite. Est-ce que tu peux me dire quel métier tu voulais faire, l'écriture, pourquoi tu aimais ça? M'expliquer un peu cette passion.
Oui, alors la légende dit que vers 8-10 ans, j'ai commencé à dire que je voulais être journaliste. Bon. Alors, il faut savoir que moi, je n'ai personne dans ma famille, ni de près, ni de loin, qui travaille dans l'écrit, dans les lettres, dans les livres, tout ça, c'est très éloigné de ce que j'ai vécu. J'ai eu un grand-père artiste peintre, musicien. La musique était assez présente. Mon père était quand même quelqu'un d'un artisan qui était en plus très reconnu dans son métier. Donc la frontière entre l'artisanat, l'art, elle est très légère. Hein. Enfin, parfois on sait même pas trop hein, s'il y a une frontière. Voilà, il y avait du dessin, de la peinture, tout ça, mais pas du tout de l'écrit. Il n'y avait pas de professeur, enfin vraiment. Et puis même, pour être honnête, ma mère, elle, surtout en tant qu'immigrée italienne, elle parlait très mal le français. Enfin, c'était voilà, il n'y avait pas de livres à la maison. Enfin, donc je ne sais pas comment, d'où ça vient en fait. Je cherche encore. Hein. Mais oui, à 8-10 ans, j'ai dit je vais être journaliste. Et je me souviens que dans les années 90, donc moi je suis née en 74, ouais, fin 80, début 90, il y a toute une série de journalistes qui passaient à la télé, c'était des grands reporters de guerre. Alors Marine Jacquemin, Alexia Laroche-Joubert, bref, il y en a, enfin elles étaient Catherine Gentil, elles étaient plusieurs comme ça, et je les regardais avec beaucoup de fascination. J'étais fascinée par ces femmes qui partaient loin. J'imaginais qu'elles laissaient leur famille prendre des risques fous pour aller couvrir des guerres, des conflits. Et je revois vraiment ces images voilà, de ces femmes et ça me faisait un peu rêver. Donc je me suis demandé si déjà à la base l'envie d'être journaliste n'était pas un peu venue de ces images de femmes libres, indépendantes, qui prenaient des risques dingue par rapport à ma vie où moi j'avais l'impression voilà de vivre dans ce petit pavillon, enfin dans ce pavillon, c'était pas forcément petit, mais dans ce pavillon de banlieue, vivre une vie assez alors monacale, faut pas non plus exagérer, mais bon voilà, quand même assez, il se passait pas grand chose. Donc je me demande si ça n'a pas été pour moi le premier déclic et surtout ce qui a représenté pour moi le summum de la liberté.
Oui, parce que justement, la liberté, on va beaucoup en parler dans cette interview, parce que ça a été une quête un peu toute ta vie. Et là, en l'occurrence, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était un peu un moyen d'échapper à la surprotection que tu avais connue, ce côté un peu enfermé, et de là, te dire que tu allais être au contact du monde, du danger, etc.
Alors, pour autant, je ne me suis jamais projetée comme reporter de guerre, parce que puisque très protégée, j'ai récupéré pas mal de peur, comme je le disais, donc j'essaye un peu de me débarrasser, mais donc non, je ne serais jamais partie, moi, sur les terrains sur lesquels étaient parties ces femmes. En revanche, je pense que le journalisme, effectivement, le fait d'aller vers les autres, d'être aussi quelque part un peu un porte-parole, là-dessus aussi, on pourra peut-être y revenir, la notion de parole, et la place que je pouvais avoir, que pouvaient avoir les mots dans ma famille. Peut-être que oui, je me suis dit, je vais faire ça parce que je vais bouger, voyager, rencontrer du monde. Et puis, écrire, je ne sais pas si c'était tout à fait très net. Je pense même que j'avais envie de faire de la radio, j'en suis même sûre, parce que j'ai un peu commencé par la radio, plus tard, après, quand j'ai grandi. Je crois que ça me plaisait, la radio. Voilà. Donc, c'était pas forcément la télé, l'écrit, bon, pas trop, c'est venu après, je dirais comment c'est venu. Mais voilà, c'était l'idée du contact avec les autres, de sortir de ce cocon, en fait, et voilà, et d'être un porte-parole.
Alors avant de passer sur tes études et tes expériences en journalisme, toi tu as commencé quand même à travailler très jeune, tu m'avais dit dès l'âge de 13-14 ans. Alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que voilà, c'est de par ta culture, c'est ce que tu m'avais dit, mais quel type de métier t'as fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi à cet âge-là de travailler aussi jeune?
Alors, dès l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à travailler. des petits boulots. J'en ai fait plein. Je vais pouvoir en donner quelques-uns en exemple. C'était quelque chose qui était important dans ma famille, de passer par cette expérience-là du travail pour gagner de l'argent. Ça, c'est pas du tout lié à mes origines italiennes. Là, pour le coup, c'est un principe d'éducation que j'ai eu dès l'enfance, qui vient plutôt de mon père, d'ailleurs, je pense, pour qui la valeur travail a une grande, grande importance, puisque lui, il s'est vraiment fait tout seul. Ils sont arrivés à Paris, ils n'avaient rien, ils sont arrivés dans la misère. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans cette idée que il y a que le travail qui paye. Voilà, ça m'a vraiment forgée depuis petite. Et je pense qu'assez vite, mes parents ont voulu me transmettre ça et me dire, bah, si tu veux t'acheter quelque chose, bah, tu travailles. Et puis, à la rigueur, on t'aidera un peu, on paiera la moitié. J'ai été beaucoup élevée comme ça. Tu veux, alors quand c'était des gros achats, tu veux ça, bah, tu travailles, on te paye la moitié, mais c'est toi qui payes l'autre moitié. Donc voilà, moi, j'ai vraiment grandi comme ça. Donc, dès l'âge de 13, 14 ans, j'ai commencé à chercher des petits boulots, donc j'ai été à la fois vendeuse dans une boulangerie, je travaillais le dimanche. Alors à l'époque, on pouvait travailler si jeune, parce que moi j'ai essayé après, enfin mes enfants après ont essayé de travailler avant 18 ans, mais c'était fini. Bon, mais à l'époque, on pouvait. J'ai travaillé chez un fleuriste, j'ai fait du repassage pour une petite dame âgée, du ménage, du babysitting évidemment, enfin voilà. Dès la quatrième, j'ai commencé à beaucoup faire de petits boulots en plus des études. Et ça aussi, ça m'a beaucoup apporté. Voilà.
Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté des valeurs
Ça m'a apporté l'envie, en fait. Ça m'a, en fait, c'est le fait de ne pas obtenir. Ça paraît un peu, j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais le fait de ne pas tout obtenir tout de suite, de devoir aussi quelque part... j'ai eu la satisfaction, souvent, de pouvoir me payer des choses moi-même, en fait. Et ça m'a forgé, parce que ça a été comme ça après longtemps, enfin toute ma vie, j'ai toujours énormément travaillé. Et on dit souvent de moi que je suis effectivement une bosseuse. C'est vrai, je pense que j'adore bosser, en fait. J'adore travailler. Je sais, c'est fou hein, de dire un peu ça, peut-être, j'en sais rien, mais je crois que c'est aussi un endroit, le travail, où on peut se révéler à soi, s'épanouir, même si parfois on est aussi là pour parler des déviations, des changements de carrière et tout ça, mais justement, ça va avec. C'est-à-dire de me dire que finalement, tout est possible.
Et pendant toute cette période où tu faisais plein de petits boulots, est-ce que tu avais quand même toujours le journalisme en tête avec cet objectif de ben, « un jour, je travaillerai pour ça » ?
Alors, j'avais l'objectif du journalisme sans vraiment me le dire. Je l'avais formulé. Mais je crois que quelque chose qui commençait à se construire petit à petit, c'était l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai déjà commencé par lire pas mal. Alors, puisque j'avais cette enfance assez solitaire, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'avais un grand frère, enfin, j'ai toujours un grand frère d'ailleurs, mais on avait 6 ans d'écart, et on n'a pas trop été élevés, enfin, si, on a été élevés ensemble, mais on était un peu chacun de notre côté. Lui, c'était le garçon, et il était plus grand, et moi, j'étais la petite fille, quoi. Voilà. Donc, j'ai été assez solitaire, et donc, j'ai commencé à aimer lire. J'ai beaucoup lu et petit à petit, ça s'est dessiné. C'est-à-dire qu'il y avait ce fantasme un peu de devenir journaliste et puis le goût pour l'écrit, pour les livres qui petit à petit a fait son chemin. Et forcément, un jour, les deux se sont rejoints et je suis devenue journaliste. Alors, ça a pris un peu de temps, mais j'ai fini finalement par... mêler ces deux petites graines qui avaient été semées dans mon enfance avec toujours cette volonté d'y arriver et surtout d'y arriver seule. Parce que, en fait, je n'ai aucun diplôme, je n'ai que mon bac. Et tout ce que j'ai réussi à faire, partant de là où je partais, je l'ai fait toute seule. Et je pense que ça, c'est vraiment la niaque, c'est tous ces petits boulots que j'ai faits et cette éducation que j'ai reçue où, en fait, Ça m'a permis, même si c'était pénible, parce que pendant que mes copines allaient s'amuser le samedi soir, moi, je gardais des enfants. Ça m'a quand même permis de me dire que toute seule, je pouvais y arriver. En tout cas, je pouvais construire quelque chose.
Donc justement, comme tu disais, tu as eu le bac uniquement comme diplôme. Mais tu as quand même tenté de faire une école de journalisme et tu as commencé à faire des piges. Alors parle-moi un petit peu de ces débuts dans le journalisme, comment tu as commencé à mettre un pied dedans, si je puis dire.
Alors, j'ai commencé déjà par aller à l'université, donc j'ai eu mon bac et j'ai eu un bac littéraire. Voilà, dans la suite logique, j'aimais lire, j'aimais écrire. Et j'ai fait donc une première année en histoire à l'université et j'ai arrêté assez vite, au bout de 2-3 mois. J'ai pas du tout grandi dans un univers universitaire, scolaire, littéraire, donc j'arrivais pas du tout à voir où est-ce que ça allait me mener. Entre-temps, j'ai refait des petits boulots, j'ai fait une deuxième tentative en histoire de l'art, le même écueil, et là quand même ça commençait à s'affirmer, c'est-à-dire que le journalisme, c'était un peu un fantasme pour moi. C'est-à-dire que j'avais envie d'aller vers ça, mais je ne me l'autorisais pas. J'avais pas du tout grandi dans ce sérail. Je n'avais pas non plus été une élève formidable. J'ai toujours été une élève moyenne. Donc je me disais, mais voilà, les grandes écoles, c'était pas pour moi. Je ne pouvais pas passer les concours de Sciences Po des grandes écoles de journalisme. Il y a des écoles un peu reconnues, il y a des voies royales pour faire ce métier, déjà à l'époque. Et donc, je ne me l'autorisais pas. Et je crois qu'en fait, je n'ai réussi à ne me l'autoriser que lorsque j'ai commencé à faire des piges. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à faire des piges, à chercher des stages, et en parallèle, je me suis inscrite au CFPJ où j'ai fait une formation professionnalisante. Mais en fait, je travaillais déjà. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu comme si je me disais ma légitimité, j'arriverais à l'avoir que si je commence déjà à travailler. J'étais toujours passée par cette étape-là. Il faut que je travaille, quoi. Et donc, j'ai commencé au CFJ d'ailleurs. Pardon, j'ai fait une erreur, c'est d'abord le CFJ, rue de Tolbiac à Paris. J'ai fait une année là-bas et pendant cette année, je travaillais déjà en tant que pigiste. Alors, je suis allée pousser des portes vraiment à l'ancienne. Je faisais le tour des radios, j'allais assister à des émissions. Donc, j'ai commencé finalement quand même par la radio. J'essayais d'aller rencontrer des gens, je déposais des CV, enfin j'y allais vraiment au culot. D'ailleurs, moi-même je m'étonne parce que j'étais assez timide dans le fond, mais je sais pas, pour ce projet-là, j'arrivais à aller voir les gens. Et donc j'ai réussi à rentrer, je suis rentrée dans une agence de presse qui faisait notamment qui fournissait les bulletins d'infos pour Fun Radio. Donc j'ai même fait du direct sur Fun Radio, je faisais les capsules d'information. Et après, j'ai intégré Radio France, j'ai fait plusieurs stages à Radio France et ma vie personnelle est venue se chevaucher et je me suis dirigée finalement vers la presse écrite.
Ça, j'y reviens juste après. Je voulais juste savoir... justement, quand tu as commencé à faire des piges, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu t'es dit « Ah bah oui, j'adore ce métier, je me suis pas trompée ». À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressentais de faire enfin ce que tu voulais faire?
Alors oui, c'est vrai que quand j'ai commencé les piges, pour moi, c'était un graal. Et surtout, j'ai eu l'impression, oui, d'être à ma place. C'est-à-dire que j'adorais ça. J'ai même fait des piges... la nuit, puisque je travaillais dans une agence de presse qui fournissait de l'audio, mais je faisais les bulletins le matin très tôt, donc j'étais un peu comme Nicolas de Morant, quoi. Enfin voilà. je me levais à 4 heures, je prenais ma petite Fiat Panda et j'étais sur l'autoroute à 3, d'Aulnay-sous-Bois à Paris. J'allais dans le 15e et donc pour moi c'était la liberté totale, quoi. C'est-à-dire que là, j'avais le droit de sortir la nuit. En fait, il y a beaucoup de choses que je pouvais faire et je l'ai compris assez tôt par le biais du travail. C'est-à-dire que partir en voyage pour le loisir, bah, mes parents me disaient bah non, en fait, pourquoi ? Par contre, partir en déplacement pour le travail ou même sortir la nuit à 4 heures du matin pour le travail, ça, ça passait. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai compris ça très tôt. Et c'est peut-être même pour ça que j'ai fait autant de boulot, parce que c'était une liberté. En fait, pour moi, le travail, ça a été une forme de liberté.
Je reviens donc sur ce que tu m'as dit avant, c'est qu'à un moment, ta vie personnelle a fait que tu t'es dirigée vers la presse écrite. Alors, je ne sais pas si tu as envie de plus en parler, mais en l'occurrence, tu t'es quand même mariée à 22 ans. Et c'est de par ce mariage et ta relation que tu t'es plus dirigée vers la presse écrite.
Donc, les premières piges, ça a été vers 22 ans, enfin entre 21 et 22 ans. Et ça correspond aussi à la période où, effectivement, j'ai rencontré mon premier mari. Donc, j'ai rencontré mon premier mari assez jeune. Et là aussi, le mariage, ça a été pour moi un degré encore plus important de liberté. Enfin, ça, c'est ce que j'ai cru sur le moment. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah là, j'ai gagné en liberté grâce au travail. Mais maintenant, si je veux partir de chez mes parents, bah, faut que je me marie. Alors, je ne me le suis pas formulé comme ça, hein, mais je pense, avec le recul, que c'est, ça a été ça. Donc, j'ai rencontré mon premier mari. On a vécu une relation d'un an à peu près, en allant chez l'un, chez l'autre. Enfin, bon, voilà. Et j'étais à ce moment-là à Radio France. Et en fait, il était question pour moi de rentrer dans ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais la tournante. C'était un planning où on partait en remplacement au pied levé dans les locales de Radio France. Et j'avais passé toutes les étapes pour pouvoir faire partie de cette équipe où on pouvait m'appeler le dimanche soir pour le lundi matin et je ne savais jamais à quel moment je rentrerais. Et il se trouve que j'étais dans une première, bon j'avais des petites histoires, mais une vraie première histoire sérieuse, très fusionnelle comme on peut avoir à 22 ans, des envies de maternité parce que j'ai toujours eu envie aussi d'enfants, etc. Enfin, il y avait tout qui se mélangeait. Et là, je me suis d'un seul coup censurée. Alors, peut-être que j'ai aussi rencontré quelqu'un que ça arrangeait bien ou qui m'a inconsciemment ou peut-être même poussé à me censurer. Mais en tout cas, je me suis retirée de Radio France parce que je commençais cette relation. Je me projetais dans cette relation. Je voulais fonder une famille, etc. Et du coup, partir comme ça, comme les reporters de guerre, quelque part, c'était pas possible. En tout cas, je ne me le suis pas autorisée. Donc, j'ai fait une première déviation, une première bifurcation vers la presse écrite. Je me suis dit, bon, bah, je vais être journaliste. Ça, je ne fais pas une croix dessus. Mais je vais faire presse écrite, comme ça, je serai plus sédentaire. Je n'aurai pas à voyager, à partir surtout comme ça, du jour au lendemain. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que bah on s'est mariés, en plus j'ai eu une petite assez jeune, 23 ans j'étais enceinte, à 24 j'ai eu ma première fille, donc pendant tout ce temps-là je suis devenue pigiste en presse écrite, en presse magazine. Donc je bougeais, je rencontrais du monde, de temps en temps je partais en voyage de presse, mais j'étais quand même assez sédentaire quoi, je travaillais à la maison.
Et justement, pigiste, c'est un statut qui est assez particulier et c'est quand même parfois difficile, il y a des difficultés. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu du quotidien d'un pigiste ?
Alors, le statut de pigiste, c'est quelque chose que j'ai choisi aussi. Alors, toujours cette idée de liberté, c'est-à-dire que moi, j'avais envie de travailler, mais je voulais rester libre. Je voulais organiser mon temps comme je le voulais. Alors, pour être honnête, quand on commence quand même souvent comme pigiste. Mais j'aurais pu avoir comme ambition d'être pigiste quelques années, puis d'être chef de rubrique, puis rédac-chef, etc. J'ai toujours voulu rester pigiste parce que je pouvais organiser mon temps. Donc j'ai eu un premier enfant, m'occuper aussi de ma fille. Et donc ça a été un choix et aussi, je crois, l'envie de faire plein de choses différentes. C'est-à-dire que le statut de pigiste, c'est pas toujours facile. il faut chercher du boulot sans arrêt, on n'a aucune garantie, il faut développer un réseau important, il faut être un peu, voilà, il faut être bon dans le relationnel, il faut aller chercher, savoir chercher du boulot là où il est. Mais en même temps, c'est une liberté, c'est aussi l'occasion de ne pas trop ronronner. Moi, j'ai jamais aimé quand ça ronronnait trop, ni dans la vie perso d'ailleurs, ni dans le boulot. Et donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai dit, moi, voilà, je travaille pour la presse écrite, je vais être sédentaire, etc. Enfin, plus sédentaire que je ne l'aurais été en radio. Mais par contre, j'avais envie de travailler pour plusieurs personnes, sur plein de sujets différents, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai toujours été pigiste.
Et donc, à un moment, tu te retrouves dans une situation où, comme tu l'as dit, tu as eu ta première fille, donc tu avais un bébé, un métier où tu devais quand même sans cesse trouver des contacts, et une relation qui commençait à battre de l'aile. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette situation? Comment elle est arrivée? Comment tu l'as vécue aussi?
Oui, tout à fait. Donc, à 24 ans, j'ai eu ma première fille avec cet homme qui a été ma première grande histoire d'amour. Et bah, c'est arrivé jeune, tout ça. J'avais peu d'expérience, même si j'avais eu quelques petits amoureux. Mais disons que la vie commune, la vie avec un homme, fonder une famille, tout ça, c'était nouveau pour moi. Et j'avais choisi quelqu'un qui se cherchait. Qui se cherchait beaucoup et qui, voilà, moi, j'étais dans un rythme où, bien sûr, il fallait chercher du travail, j'étais tout le temps sur le qui-vive, etc., mais je pense que je m'étais trouvée, c'est-à-dire que ça ne m'a jamais quittée, cette envie d'être sur des métiers autour de l'écrit, d'être un porte-parole quelque part. Maintenant que j'y pense, je me dis ça ne m'a jamais quittée. Je m'étais trouvée. Mais c'est vrai que j'avais mon rythme qui était très, très soutenu, effectivement un enfant en bas âge et un conjoint qui n'était pas très soutenant, on va dire. C'était plutôt moi qui le soutenais. Donc, au bout d'un moment, ça a fait trop. Voilà. Et l'histoire d'amour s'est transformée en un quotidien assez pesant et très compliqué pour moi. J'ai vraiment commencé à m'épuiser. Hein, bon, et donc, du coup, l'histoire, petit à petit, voilà, c'est gâté, on va dire, malheureusement, et on s'est séparés. Ma fille avait 2 ans et demi, hein, donc ça a été assez rapide. Hein.
Et c'est là que tu as commencé à te rendre compte que finalement, le mariage n'était pas tant que ça une liberté aussi.
Voilà, et effectivement, je me suis rendu compte à ce moment-là que cette idée que je me faisais du mariage, finalement très un peu archaïque, hein, disons-le, enfin, cette vieille idée qui consistait à dire « je vais partir de chez mes parents pour faire ma vie à moi », ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai quand même fait un peu ma vie à moi parce que quand même, j'ai eu envie de cet enfant. Nous avons eu envie, hein, tous les deux, de cet enfant. On a eu un enfant, on a eu quand même plein de moments heureux, hein, quand même, il faut le dire, hein, évidemment. J'ai fait le métier que j'avais quand même choisi. En plus, en n'ayant que le bac, enfin, j'étais allée au bout de tout ça, hein. Mais j'étais quand même un peu enfermée. Voilà. J'étais quand même dans quelque chose où finalement, je me suis sentie prise un peu dans un... Alors, le piège, il ne faut pas exagérer, mais un peu... ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais.
Et justement, donc ce sentiment d'emprisonnement, tu vas le quitter et retoucher un peu la liberté du bout des doigts quelques années après, donc en divorçant et en te remariant et en allant vivre dans la capitale. C'est ce que tu m'avais dit, ce sentiment de liberté, tu l'avais retrouvé à Paris. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement comment tu en es arrivé à vivre dans la capitale et qu'est-ce qui a fait que tu t'es ressenti libre de nouveau à ce moment-là?
Donc après le divorce, puisqu'on a divorcé, effectivement, j'ai eu une période d'un an à peu près où j'étais seule avec ma fille et toujours pigiste. Et je commençais quand même à me dire que j'aurais voulu quitter Aulnay-sous-Bois. J'ai vécu des moments heureux à Aulnay, mais je commençais à m'ennuyer. Je m'étais un peu ennuyée enfant. Puis moins parce que je naviguais quand même pas mal, mais dans ma vie de couple et dans ma vie de jeune mère avec un enfant en bas âge, je commençais à m'ennuyer. C'était pas si évident que les gens se déplacent. J'avais beaucoup de connaissances à Paris, puisque mon métier m'amenait quand même beaucoup à Paris. Et les Parisiens se déplaçaient peu. Ils venaient, mais peu. C'est moins évident. Hein, dès qu'il faut, maintenant que je suis parisienne, je comprends. Traverser le périph', c'est caricatural, mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué pour les Parisiens. Donc je commençais à me sentir un peu isolée. Et j'avais envie d'autre chose. Et mon rêve, c'était d'aller habiter sur Paris. Bon. Moi, je voyais vraiment Paris comme un espace de liberté énorme. Sans compter que dans la banlieue où j'habitais, c'est drôle d'ailleurs, parce que je retrouvais par moments un peu l'ambiance du village en Italie, c'est-à-dire où il n'y a absolument aucun anonymat. Forcément, je suis restée 27 ans à Aulnay, je connaissais pas mal de monde. J'avais envie d'anonymat, j'avais envie de grands espaces. Alors, de grands espaces, pas d'un appartement très grand, parce qu'en l'occurrence à Paris, en général, on diminue l'espace de vie, mais plus d'une forme de liberté à nouveau que je me suis mise à rechercher. Et j'ai rencontré assez vite mon deuxième mari, voilà, qui était finalement quelqu'un d'assez libre dans sa façon d'être, dans ce qu'il avait pu vivre, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup voyagé, qui était très indépendant, qui était déjà bien installé dans son métier, qui était architecte et que je voyais comme quelqu'un d'assez libre. Et avec lui, on est venu s'installer sur Paris. Donc, à 27 ans, j'ai réalisé un peu ce rêve de passer le périph' et de venir donc m'installer là où je suis toujours aujourd'hui, d'ailleurs, dans le même arrondissement. Et on s'est installé ensemble. Alors, il se trouve qu'on est allé assez vite entre le moment de la rencontre et voilà. Comme on avait enfin, ma fille est née, il fallait la scolariser, donc ça a accéléré un peu les choses. Bon, bref, on s'est installé assez rapidement, quelques mois après s'être rencontrés. On a fait la rentrée de septembre à Paris.
Et alors, c'était à la hauteur de tes attentes ou pas?
Alors oui, j'étais absolument. J'avais 15 ans, quoi. Enfin, j'avais 27 ans, mais dans ma tête, 15 ans, c'est-à-dire que je suis arrivée à Paris, la capitale. Je faisais tout à pied. J'ai passé des heures à marcher. Je me déplaçais à pied tout le temps. J'étais fascinée par la moindre petite, je sais pas moi, le moindre détail du quotidien. Alors je raconte souvent ça, mais c'est vrai que j'étais à la fenêtre de mon appartement et j'entendais les camions poubelles. C'est un peu idiot, mais qui passaient deux. Alors à l'époque, parce que je crois que maintenant ça a changé, mais ils passaient deux fois par jour, le matin et le soir. J'étais fascinée en fait. Je disais à mon conjoint, mais c'est fou ça. Enfin, parce qu'en banlieue, c'est pas comme ça. Ça passe deux fois dans la semaine. Enfin, c'était plein de petites choses où j'avais l'impression en fait d'être une gamine qui découvrait, voilà, une nouvelle vie. Voilà, les mouettes aussi. J'entendais les mouettes parce qu'en plus on est à côté du bois de Vincennes, donc j'entendais les mouettes. Ça me paraissait fou. Bon, puis voilà, plein de petites choses. Oui, cette liberté, les magasins ouverts assez tard, pouvoir descendre, acheter une plaquette de beurre à 21 h, enfin des choses dingues, quoi.
Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.